Leçon 3. Gestionnaire pour Dieu, déchu. Il y a de nombreuses années, lorsque je vivais en Europe, j'ai eu le plaisir de me rendre à Gdynia, une ville polonaise sur la mer Baltique. On m'avait invité à enseigner les 5 aspects au cours d'une retraite organisée pour des jeunes femmes polonaises. À mon arrivée, j'ai été accueillie par mon interprète qui m'a accompagnée jusqu'à l'appartement qui m'était attribué pendant le séjour. Après m'être installée, nous étions toutes les deux dans la cuisine et elle me dit « Je vous attends depuis un an. L'année dernière, une amie m'a parlé des 5 aspects et plus particulièrement des leçons créées. Au départ, j'étais contente et enthousiaste parce que ça répondait à certaines de mes questions. J'ai pu voir que c'est ainsi que Dieu voulait que les femmes soient. Et c'est magnifique. Mais au bout d'un moment, je me suis découragée en constatant qu'autour de moi, les choses ne se passent pas comme ça. La vie n'est pas ainsi. Et je vous ai attendu avec impatience, parce que ce que je veux vous demander, au vu de ce que sont les choses en réalité, c'est « Et maintenant, alors ?» Le processus de pensée de Mira et sa question sont bien ciblés. Elle représente un esprit qui est à la fois spirituel et réaliste. Son cœur est sensible aux aspects créés. Voici ce qui devrait être. Néanmoins, la réalité dit que ce n'est pas ce qui est. Alors maintenant, nous devons nous poser plusieurs questions difficiles auxquelles il nous faut répondre. Avant d'arriver à cette question très importante de Mira, et maintenant alors, il y a une question préalable. Que sont devenus ces merveilleux aspects créés? Comment sommes-nous parvenus au bourbier que nous voyons autour de nous? Ce qui est arrivé, c'est la chute et la malédiction. Ces choses ne sont pas aussi positives et optimistes que la création ou que la grâce de Dieu, tout au moins en apparence. Pourtant, nous pouvons étudier la chute avec enthousiasme, parce que les réponses bibliques à ce qui ne va pas chez nous sont tout aussi convaincantes et satisfaisantes que les réponses de la Bible à ce qui va bien chez nous. La chute et la malédiction expliquent le mal et la souffrance de façon plus logique et plus satisfaisante et apportent plus d'espérance qu'aucune autre religion. La chute est le choix que l'homme a fait de désobéir à Dieu. En mangeant du fruit de la connaissance du bien et du mal, ce qui a apporté la mort, comme nous le voyons en Genèse 2, verset 17, et en Genèse 3, verset 6 à 7. La chute est un événement historique. Adam et Ève ont choisi de ne pas croire Dieu. Au lieu de croire ce que disait Dieu, Ève a choisi de croire le serpent. Plutôt que de suivre Dieu, Adam a choisi de suivre sa femme. C'est moins une chute qu'un véritable plongeon dans le péché. Une décision délibérée d'opter pour la désobéissance et d'aller contre Dieu. La malédiction n'est pas une chose produite par le diable, c'est une chose produite par Dieu. La malédiction consiste en une série de jugements que Dieu émet sur Satan, la femme, l'homme, et à travers lui sur toute la création, en réponse au péché humain et satanique. Dieu vient dans le jardin et parle en Genèse 3, versets 14 à 19. Il maudit le serpent directement et sans équivoque. Il applique une malédiction sur le domaine de la femme et il applique une malédiction sur le domaine de l'homme. Nous étudierons en détail les 3 volets de cette malédiction dans les questions d'études et dans les leçons suivantes. Pour le moment, nous allons seulement étudier la malédiction au sens large. Quelle est la nature de cette malédiction? À l'origine, la création tendait vers la vie, la bonne santé et la croissance. Cependant, tout a changé lors de la malédiction, pour tendre vers la mort, la putréfaction et la souffrance. Aujourd'hui, les choses sont sans cesse en train de s'user, de tomber en panne, de vieillir, de se casser et de mourir. Les scientifiques appellent ce phénomène le deuxième principe de la thermodynamique, ce qui veut dire que tout tend vers l'entropie. Pour résumer, l'entropie, c'est la tendance au désordre. Les maîtresses de maison ne doivent avoir aucun mal à comprendre ce principe. Les choses ne s'ordonnent pas de façon naturelle, mais se mettent toujours plus en pagaille de façon naturelle. Nos corps ne rajeunissent pas avec le temps. Ils vieillissent, se fatiguent et meurent. Si on lit en Genèse 3, versets 14 à 19, on peut voir que les conflits, la guerre, la douleur, la tristesse, la rébellion, les épines, les ronces, la sueur et la mort sont tous des éléments de la malédiction. Chacun de ces éléments est une réalité bien spécifique qui symbolise toute une palette de mots. Par exemple, La sueur a été donnée par Dieu pour pourvoir à l'inefficacité du corps humain. Après la malédiction, Adam a commencé à travailler en suant parce que son corps déchu était inefficace et qu'il avait trop chaud. Si nos corps étaient parfaitement efficaces, nous n'aurions jamais trop chaud, nous ne serions jamais stressés, nous ne vieillirions pas, nous ne mourrions pas et nous ne nous décomposerions pas. Depuis la malédiction, les choses ne sont plus magnifiques. Depuis la malédiction, il existe une laideur spirituelle qui s'appelle le péché et une laideur physique qui en est le résultat. La malédiction n'est pas seulement généralisée, elle est aussi rétributive. Nous sommes le domaine de Dieu et nous nous sommes rebellés contre lui. Alors, dans ses jugements, il fait en sorte que nos domaines se retournent contre nous. Nous essayons de planter du maïs, mais nous récoltons des mauvaises herbes. Nous conduisons une voiture et les freins lâchent. Nous corrigeons nos enfants et ils ripostent. Nos domaines se retournent contre nous exactement comme nous nous sommes retournés contre Dieu. En lâchant ce principe de rébellion dans notre monde, Dieu nous fait goûter à ce que nous lui avons fait, mais il a un but rédempteur. En intensifiant la lutte contre le mal, le but de Dieu est de résoudre la bataille. Romains 8, versets 20 et 21 déclare que Dieu a soumis la création à la malédiction avec l'espérance. Cela est intéressant et presque inattendu. Il a soumis la création avec l'espérance. Comment la malédiction peut-elle apporter de l'espérance? Prenons une famille financièrement très irresponsable. Les membres de cette famille ne sont ni diligents, ni prudents, ni économes. Que peut faire Dieu? Il peut leur faire subir des difficultés financières ponctuelles. D'une manière ou d'une autre, l'intensification de leur combat financier va forger le caractère de cette famille. Ils vont soit mourir de faim, soit devenir des voleurs, soit apprendre à être plus économes et diligents. Intensifier la difficulté va résoudre le problème d'une façon ou d'une autre. Une de mes amies m'a raconté qu'au moment où son mari et elle s'éloignaient l'un de l'autre, le Seigneur a repris un de leurs enfants. L'intensification de leurs difficultés conjugales par ce drame les a forcés en quelque sorte à choisir entre le bien et le mal. Ce couple avait à choisir entre renouveler leur engagement pour le Seigneur et pour leur famille, ou opter pour l'amertume et le divorce, comme beaucoup de gens le font suite à la mort d'un enfant. Ce couple, qui aimait le Seigneur, s'est ressoudé à cause de la souffrance. L'humanisme occidental, les religions orientales, le Nouvel Âge et un paganisme banalisé sous toutes sortes de formes sont devenus majoritaires dans les pays autrefois christianisés. Certaines personnes fuient le christianisme et embrassent ces fausses religions parce qu'elles croient pouvoir échapper aux exigences du Dieu chrétien pour embrasser une vision du monde plus libre ou plus prometteuse. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Ces religions peuvent prétendre offrir libération aux puissances, mais elles offrent en fait un univers où le mal est normal et éternel. Elles enseignent que ceux qui existent, bons et mauvais, durent toujours. Elles ne présentent pas un Dieu personnel et entièrement bon qui puisse attirer les gens à lui et mettre un terme à la malédiction. Dans ce genre de religion, finalement, il y a un être suprême qui est une sorte de bloc de pierre impersonnel, pour qui le bien et le mal sont superficiels, en fait. La soi-disant « espérance » dans ces religions, c'est que les individus évoluent continuellement dans un univers mauvais, jusqu'à ce qu'ils perdent toute leur identité dans cet être suprême impersonnel, dont le côté sombre est aussi réel que le côté éclairé. La Bible, elle, déclare que le mal est anormal. Il a eu un commencement et il aura une fin. Dieu est entièrement bon. Il n'a rien de mauvais et n'a pas de côté sombre. L'univers qu'il a créé est bon et dans cet univers, il a créé des créatures capables de choisir entre le bien et le mal. Certaines ont choisi le mal. Maintenant, nous sommes dans cette parenthèse du temps où la question du mal est en train d'être traitée dans l'histoire, dans le combat entre le bien et le mal. Mais dans le futur, cette lutte sera terminée. La justice triomphera et la malédiction sera ôtée. Les prophètes et les apôtres l'ont prédit. Le christianisme dit que le mal est à la fois anormal et temporaire, alors que d'autres religions disent que le mal a toujours existé et existera toujours. La loi de Murphy nous est familière. Si quoi que ce soit peut mal tourner, ça tournera mal, et en plus, au pire moment. Il existe toute une série de dictons semblables. Et voilà quelques-uns que j'aime particulièrement. Le chemin le plus court entre deux points est généralement en travaux. Le téléphone ne sonne jamais quand on n'a rien à faire. Dès que vous changez de fil, les voitures commencent à rouler. Généralement, nous trouvons ces citations amusantes. Mais ce genre d'humour témoigne de deux choses. Tout d'abord, c'est un témoignage de la réalité de la malédiction. Tout le monde sait que la malédiction existe. Nous avons tous fait l'expérience de choses qui vont de travers à des moments cruciaux. Pourtant, le fait d'en rire est une grande preuve de la grâce de Dieu. Si la malédiction avait été aussi terrible qu'elle aurait pu l'être, personne ne serait assis ici, encore moins, en rigolant. Nous rions seulement parce que nous comprenons, inconsciemment du moins, à la fois la malédiction et ses limites. Le fait que ce principe de contrariété et de rébellion soit omniprésent dans l'univers n'est pas à prendre à la légère. Quand Adam a chuté, tout l'univers a chuté avec lui. Quand il a été placé sous la malédiction de la mort, l'univers entier a aussi commencé à mourir. C'est un problème d'une importance cruciale. Paul écrit en Romains 8, verset 20, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Chaque partie de l'être humain et de ses relations a été jugée. Sa relation avec Dieu, sa femme, les animaux, les plantes et même la terre sous ses pieds, tous ont été maudits par la corruption. Comprendre la nature universelle de la malédiction est essentiel si nous voulons comprendre le caractère entier et complet de la solution divine dans un deuxième temps. Dans la leçon sur l'aspect créé de la gestionnaire pour Dieu, nous avons passé beaucoup de temps sur le fait que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Dieu a des attributs divins, la souveraineté, la droiture, la justice, l'amour, etc. Et nous avons des attributs également, une pensée, une volonté, une conscience, une personnalité, etc. Nos attributs humains sont des images des attributs divins de Dieu. Nous sommes des petites copies, des petites statues du divin. La première chose qui soit arrivée à l'homme et à la femme déchus, c'est que leur image de Dieu a été corrompue. Cette image n'a pas été ôtée, nous sommes toujours à l'image de Dieu. Cependant, cette image est corrompue. Le Nouveau Testament appelle cela la vieille nature pécheresse et la chair, qui produit toutes sortes de péchés, la luxure, l'idolâtrie, l'ivrognerie, la colère, etc. Chaque attribut humain est touché. La Bible décrit notre condition dans un langage alarmant. Elle dit que notre conscience est endurcie, souillée et flétrie. Notre volonté est en esclavage, en rébellion. Notre cœur est hostile, dur, aveugle, pollué. Notre esprit est ignorant, vain, dans les ténèbres et en inimité. Notre caractère alimenté par cette vieille nature pécheresse et par la convoitise trompeuse porte du fruit pour la mort. Notre immortalité est destinée à la seconde mort et au lac de feu parce que nous sommes séparés de Dieu et sous sa malédiction. La dépravation de l'homme ne veut pas dire que nous sommes tous aussi mauvais que nous pourrions l'être. Nous pouvons empirer. Les hommes sont livrés au péché à différents degrés. La dépravation signifie qu'il n'y a aucune partie en nous qui soit bonne, non corrompue. Puisque cette nature pécheresse et corrompue envahit tout notre être, nous sommes incapables de revenir à Dieu par nous-mêmes. Nous avons toujours une intelligence, mais cette intelligence est obscurcie. Nous ne pouvons pas revenir à Dieu par nos pensées. Nous avons de la puissance, mais notre puissance est imparfaite. Nous ne pouvons pas revenir à Dieu par notre travail. Nous ne pouvons pas revenir à Dieu par la morale, parce que notre conscience est endurcie. Nous ne pouvons pas revenir à Dieu par ce que nous ressentons émotionnellement, malgré toutes les thérapies et psychanalyses que nous faisons. Nous ne pouvons pas revenir à lui en nous reproduisant sexuellement, même si dans le passé des hommes ont déjà essayé de créer une race supérieure. Avec la recherche génétique, nous risquons de voir ressurgir cet effort dans les années à venir. La dépravation ne signifie donc pas que nous sommes aussi mauvais que nous pourrions l'être. En effet, nous pouvons devenir pires. Ce mot signifie plutôt que nous sommes envahis par le péché et que nous ne pouvons pas atteindre un Dieu saint. Si le contact doit être rétabli, c'est lui qui va devoir s'abaisser jusqu'à nous. Voici ce que je dirais pour résumer l'effet de la malédiction sur notre image. Nous avons toujours l'image de Dieu, mais cette image est corrompue par notre nature pécheresse. Que s'est-il passé en ce qui concerne notre relation avec Dieu? La leçon sur l'aspect créé de la gestionnaire pour Dieu développe l'idée que Dieu est le grand roi qui a donné l'intendance de la terre à ses vice-rois. Ceux-ci avaient de l'autorité pour prendre des décisions, mais restaient toutefois redevables envers Dieu. Cette relation était basée sur la confiance. Lors de la chute, Adam et Ève ont brisé cette confiance. Ils ont dit « Nous ne te croyons pas, Dieu. Nous n'allons pas t'obéir. » La race humaine est passée du statut d'intendant digne de confiance à celui de criminel et d'ennemi de Dieu. Supposons que nous sommes des marins du temps jadis et que nous prenons la mer pour voguer vers les Antilles. Si nous décidions de jeter le capitaine par-dessus bord et de hisser le pavillon pirate, nous passerions du statut de loyaux sujets du roi à celui de pirate, mutin et traître à la couronne. Le roi enverrait d'autres marins, qui sont loyaux, pour nous capturer, et nous serions ramenés à notre point de départ pour être pendus à la vergue du navire pour trahison. Voilà la condition humaine. Nous sommes dans notre petit bateau, arborant le pavillon pirate. Nous sommes des traîtres à la couronne, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Nous méritons de mourir. Nous méritons de payer le prix de notre trahison, c'est-à-dire de la mort. Nous sommes passés du statut d'intendant digne de confiance à celui d'ennemi et de traître. Vous vous souvenez des merveilleuses instructions du mandat universel de dominer, assujettir et produire du fruit? Avant d'avoir péché, Adam travaillait dans le jardin pour obéir précisément à ses ordres. Le travail n'est pas la malédiction. La malédiction, c'est le travail improductif, frustrant et inefficace. Mon père aimait les noix de pécan. Il les a étudiées, greffées, il en a fait pousser pendant des années. Souvent, il n'y a pas de récolte, parce que les noix ne se développent pas correctement. Les parasites les attaquent, les oiseaux les mangent ou encore la météo n'est pas au rendez-vous. Toutes ces choses font partie de la malédiction. Il y a quelques années, il y avait une superbe récolte en perspective. On pouvait presque sentir en bouche le goût de ces noix succulentes encore attachées aux branches. Tout ce qu'il leur restait à faire, c'était de sécher un tout petit peu plus et de tomber. Devinez ce qui s'est passé. La semaine précédant la récolte, il est tombé 25 mm de pluie. La plupart des noix ont été infectées par un champignon et détruites. C'était à briser le cœur. Donc la malédiction n'est pas le travail en soi, mais c'est ce qui arrive pour détruire tout notre labeur et le rendre infructueux. La malédiction affecte nos vies aussi bien de manière énorme et tragique, mais aussi par de petites irritations insignifiantes. Une maison en désordre et un voisin pénible forment tout autant notre caractère que la mort ou la banqueroute. Nos vies sont généralement définies par la façon dont nous réagissons aussi bien aux grandes tragédies qu'aux coups mesquins de la chute. Recherchons-nous Dieu et sa grâce, ou bien nous endurcissons-nous dans l'amertume? Pour résumer, notre gestion est affectée par l'inconstance de nos propres cœurs. Nous sommes appelés à assujettir un domaine qui non seulement n'est pas cultivé, mais qui en plus se rebelle férocement contre nous. Notre productivité est affectée à tous les niveaux, spirituel, physique, économique, artistique, intellectuel, pour n'en citer que quelques-uns. Le mandat n'a pas été supprimé. Notre capacité à dominer, assujettir et produire du fruit n'a pas été supprimée. Mais la rébellion infiltre notre monde entier, corrompant notre domaine, défiant notre autorité et contrecarrant notre productivité. Voilà la malédiction. J'ai expliqué dans la première leçon que ce cours se base sur des passages définissant des principes bibliques, illustrés par ailleurs par d'autres passages des Écritures, en particulier les récits. Ayant considéré comment la Bible définit le mal par la chute et la malédiction, examinons maintenant une gestionnaire profondément déchue en action, tirée d'un récit biblique. Une classique gestionnaire pour Dieu déchue est l'infâme reine Jézabel. Elle incarne une pécheresse de la catégorie des monstres maniaques et autres instigatrices. J'étais récemment dans une classe d'école du dimanche où nous avons discuté des grands pécheurs. On a mentionné Joseph Staline, Hitler et Saddam Hussein. Jézabel est du même acabit. Elle est fille du roi de Sidon, un royaume de fanatiques du dieu Baal, situé au nord-ouest d'Israël. Son père est roi, mais il est aussi grand prêtre de Baal. Selon leur croyance, Baal est le dieu du feu, de la pluie et des récoltes. Lorsque vous regardez les miracles d'Élie et d'Élisée, vous remarquez que la plupart d'entre eux concernent le feu, la pluie et les récoltes, aussi bien que la vie et la mort. Dieu démontre par ses miracles que c'est lui qui a le pouvoir sur ces choses et non pas Baal, ni son homologue Astarté, l'horrible déesse du sexe et de la violence que Jézabel vénère et à qui elle ressemble. On rend un culte à ces dieux en se mutilant le corps et en pratiquant toutes sortes d'actes sexuels pervers. Akab, le roi juif du royaume du Nord, épouse cette princesse. Dieu n'est pas content qu'Akab la prenne pour femme. Personne ne peut prévoir la façon dont Jézabel va saccager le Nord. Bien que troublé par l'apostasie du roi Jéroboam, Israël est toujours considéré comme étant le royaume de Dieu. Mais Jézabel introduit le paganisme à l'état pur dans les tribus du Nord. Elle massacre les prophètes de Dieu. Tout le monde a peur d'elle, même le grand prophète Élie. Elle fait venir 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté pour une bureaucratie de 850 personnes. La Bible dit qu'ils mangent à sa table. Cela ne veut pas dire que Jézabel se lève tous les matins pour leur préparer à manger. Cela signifie qu'ils appartiennent au personnel du gouvernement. Jézabel fait de tout ce gouvernement du royaume du Nord une bureaucratie païenne d'adorateurs, de prêtres et de prêtresses de Baal. Un de ses actes de méchanceté les plus infâmes est le vol de la vigne de Naboth. Jézabel et Akab possèdent un palais d'été à Jizréel. Akab a remarqué que leur voisin a un superbe jardin qui jouxte le palais. Akab veut ce terrain, donc il propose à son voisin de l'acheter. Mais le juif Naboth refuse, ce qui est son droit sous la loi de Moïse. Akab revient au palais, triste et irrité, parce que bien qu'il soit méchant, il est juif et connaît suffisamment la loi de Dieu pour savoir que cet homme est dans son bon droit. Il se fâche donc, détourne le visage vers le mur et refuse de manger. Jézabel entre alors dans sa chambre et lui dit « Qu'est-ce qui se passe? N'es-tu pas le roi en Israël ?» Roi, selon sa façon de voir, signifie dictateur, celui qui peut faire tout ce qu'il veut. Alors, promptement, elle s'assoit, prend le cachet royal d'Akab, écrit une lettre aux anciens de Jizréel, fait prendre Naboth comme traître et le fait lapider sur une accusation inventée de toutes pièces. Puis, elle retourne voir Akab et lui dit « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth, maintenant tu peux la voir. » Dieu est très en colère à cause de ça, et plus tard il jugera Jézabel et toute sa maison. Naboth est traîné dehors, lapidé et battu, jusqu'à n'être plus qu'une bouillie sanguinolente. Dieu dit que la même chose arrivera à Jézabel. Dans 1 Roi 21, versets 23 à 25, nous lisons ce qui suit. L'Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Jézabel manipule son mari et l'incite à une grande méchanceté. Elle institue le culte de Baal. Elle massacre les prophètes de Dieu. Elle va jusqu'au bout des choses et ses enfants sont comme elle. Une de ses filles devient reine du royaume du Sud. C'est beaucoup plus grave car le royaume du Sud est celui de David, le royaume de la lignée messianique. Athalie, la fille de Jézabel, provoque l'extinction de la dynastie davidique à l'exception d'un bébé mâle. Le petit Joas est caché dans la chambre d'Élie, dans l'enceinte du temple, afin d'être protégé du bain de sang. Jézabel s'est reproduite de manière très efficace. Sa fille est exactement comme elle. Finalement, Jézabel et tous ses enfants sont massacrés sous le jugement de Dieu. En dépit de cela, elle a détruit la famille royale d'Akab et a presque anéanti la maison royale de David. Elle est la cause d'un bain de sang entre ces deux nations. Elle est ce qui se rapproche le plus dans l'histoire d'un antichrist au féminin. Elle personnifie la grande prostituée d'Apocalypse 17 et 18. J'ai souvent pensé qu'il serait intéressant d'écrire une étude biblique intitulée « Pourquoi j'admire Jézabel ?» Permettez-moi de vous dire pourquoi j'admire Jézabel. Elle a du zèle pour ses dieux. Elle est déterminée, résolue et entièrement consacrée à sa cause. Elle ne se détourne jamais de l'enseignement de sa jeunesse. Elle a du sang-froid et une vision dans les moments de crise. Elle sait ce qu'elle veut, prend des décisions et organise son domaine pour atteindre ses buts. Elle a une vision à long terme et elle persévère. Toutes ces caractéristiques fondamentales à l'aspect de la gestionnaire pour Dieu Jézabel les a en abondance. Le problème consiste en ce que ces caractéristiques vont dans la mauvaise direction chez elle. Jézabel, évidemment, n'a pas eu le dernier mot. Dieu veut éradiquer les adorateurs de Baal dans le royaume du Nord, donc il engage un tueur professionnel, le chef militaire Jéhu, pour être le roi suivant. Quand Jéhu arrive à Jizréel, Jézabel le voit depuis la fenêtre de l'étage. C'est le fameux passage où il est question du maquillage de ses yeux. Compte tenu de tout ce qu'elle a fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est cela qui la rend célèbre. Dans 2 Rois, chapitre 9, verset 30, il est écrit « Jéhu entra dans Jizréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Elle fait un sarcasme historique ici, faisant référence à l'assassin d'un roi précédent. Il leva le visage vers la fenêtre et dit « Qui est pour moi ? Qui ?» Et deux ou trois eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit « Jetez-la en bas !» Et ils la jetèrent. Ces eunuques appartiennent vraisemblablement à la cour de Jézabel. Cette femme, qui a détruit et manipulé tant d'hommes, est finalement détruite par des hommes qui sont probablement désireux de la chasser de leur vie. Revenons à 2 Rois, chapitre 9, verset 33. Et il jaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds, puis il entra, mangea et but. Et il dit, « Allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. » Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, « C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, « Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Jizréel. » Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jizréel, de sorte qu'on ne pourra dire « c'est Jézabel ». Jézabel est une maîtresse puissante et orgueilleuse dans son domaine. Elle lève le poing contre Dieu. La réponse de Dieu consiste à la juger rapidement et violemment, la jetant à terre sans sépulcre. Dieu n'a pas voulu qu'il y ait en Israël une grande tombe commémorant Jézabel, alors il l'a ôtée de la surface de la terre. Bien sûr, elle vit encore dans les Écritures comme un exemple frappant du mal. Beaucoup de femmes ne s'identifient pas à Jézabel. Et pourtant, nous avons peut-être plus de choses en commun avec elle que nous ne le pensons. Mais avant de parler de notre identification au gestionnaire déchu, regardons un autre type de pécheresse. La chute affecte chaque aspect de deux façons différentes. Nous en faisons trop ou pas assez. Jézabel en fait trop dans son rôle de gestionnaire et l'utilise à de mauvaises fins. Mais elle l'utilise indubitablement. Les gestionnaires qui nient cet aspect ont tendance à être des personnes passives, des touche-à-tout irresponsables, des flâneuses et des perdantes. Contrairement aux Jézabel dynamiques, puissantes et énergiques, elles sont comme celles que j'appelle Lotti la paresseuse. Quand je préparais cette partie, j'ai dit à mon mari que j'allais utiliser une femme imaginaire, puisqu'il ne me semblait pas pouvoir trouver dans la Bible une femme unique pouvant la représenter à elle seule. Il m'a répondu, et la femme de Lot alors? Elle s'est retournée pour dire à Lot, « Regarde, chérie, il y a une vente flash au centre commercial de Sodome, je dois y retourner. » Bien sûr, il plaisantait, mais il a arrêté son imitation et m'a dit, « Elle n'avait vraiment aucune notion de la gravité de la situation. » Ce qu'a dit Bill est bien vrai. Les femmes irresponsables, insouciantes et à leur aise ne saisissent absolument pas la gravité des situations de la vie. Elles n'ont aucune notion que le jugement de Dieu va venir, et lorsqu'il arrive, elles ne sont pas prêtes. Nommée d'après la femme de Lot, le caractère de cette femme imaginaire est développé davantage dans les quatre passages bibliques suivants. Au chapitre 32, verset 9, Ésaïe parle de ce type de méchante femme vivant à son époque. « Femme insouciante, levez-vous, écoutez ma voix. Fille indolente, prêtez l'oreille à ma parole. Dans un an et quelques jours, vous tremblerez, indolente. Car c'en est fait de la vendange, la récolte n'arrivera pas. Soyez dans l'effroi, insouciante, tremblez, indolente, déshabillez-vous, mettez-vous à nu et saignez vos reins. On se frappe le sein au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes. » Ésaïe dit à ces femmes paresseuses de pleurer, parce que leur jugement arrive. Comment les appelle-t-il? La version seconde traduit ces mots par « des femmes insouciantes, indolentes ». D'autres traductions disent « des femmes qui sont à l'aise », qui vivent en sécurité. Mais on pourra également dire des femmes frivoles, qui se concentrent sur les futilités de la vie. Elles ne gèrent pas leur domaine dans un but précis. Elles n'aident pas les autres, ne soignent rien et n'acquièrent pas de sagesse. Elles sont une espèce de femme frivole et irresponsable. Il y a des moments appropriés pour la détente et les loisirs, mais une gestionnaire pour Dieu vertueuse sera sérieuse au plus profond de son être. Elle sait ce qui est important dans la vie et se concentre sur ce qui compte. Les gestionnaires passives sont paresseuses et prennent leurs aises. Pensez aux vierges folles en Matthieu 25. L'époux arrive et les vierges sont censées être prêtes pour lui. 5 d'entre elles prennent leurs lampes et de l'huile en plus. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13 déclare « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il leur répondit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Madame Lowe était folle parce qu'elle n'était pas préparée à quitter son monde. Les vierges étaient folles parce qu'elles n'étaient pas préparées pour suivre Dieu dans le suivant. Quand l'heure est arrivée, dans un cas comme dans l'autre, elles n'étaient pas prêtes. La gestionnaire pour Dieu vertueuse sait que la vie est une course contre la montre. Vous n'avez que 10 ans à passer dans la vingtaine et 10 ans dans la trentaine, et que 10 ans encore quand votre enfant a entre 1 et 10 ans. Puis l'enfant se finit pour toujours. Nous connaissons la durée précise de bien des époques de la vie, même si dans d'autres domaines, nous ne savons pas combien de temps nous avons. Nous ne savons pas combien de temps nous aurons notre conjoint avec nous, ni combien de temps il nous reste à vivre. Mais nous savons que la vie est une course contre la montre. La gestionnaire vertueuse pense à ses ressources et fait des préparatifs, parce qu'elle sait que Dieu va venir pour juger, demander des comptes et récompenser. Les gestionnaires passives sont mal préparées. La parabole qui suit l'histoire des vierges folles est l'une des plus connues sur l'intendance. Considérez l'homme qui n'a reçu qu'un talent. Nous savons qu'il y a 3 serviteurs. Le premier a reçu 5 talents et en a rendu 10. Le deuxième en a eu 2 et en a rendu 4. Et le troisième, qui n'en a reçu qu'un, dit en Matthieu 25, versets 24 à 28, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc mettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » Nous en entendons tellement aujourd'hui sur les gens qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Cependant, une bonne partie de ce que notre société appelle avoir une mauvaise image de soi est en réalité une mauvaise image de Dieu. En Matthieu 25, verset 24, le serviteur dit « Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Cette affirmation n'est pas vraie. Le maître est venu non pas là où il n'a rien laissé, mais là où il a laissé quelque chose. Il a confié à ses serviteurs 10, 5 et 1 talent. Le maître a semé et ne demande rien de déraisonnable. En fait, il dit même, « Si tu ne voulais rien en faire, tu aurais pu simplement le mettre à la banque pour qu'il me rapporte au moins des intérêts. » Il demande seulement un retour raisonnable de son investissement. Le maître est-il un maître dur qui moissonne où il n'a pas semé? Non, c'est une fausse accusation. Le serviteur méchant croit que son maître est dur et déraisonnable et il a peur. Sa peur est enracinée dans la fausse conception qu'il a de son maître. Les gens qui croient que Dieu est dur et déraisonnable parlent mal de lui, deviennent craintifs, s'apitoient sur eux-mêmes, ne font aucun effort et sont malheureux. Davantage d'amour et d'encouragement réglera-t-il leurs problèmes? Les exhorter à se sentir bien eux-mêmes va-t-il vraiment aider? Non, dans cette situation, les encouragements ne traiteront pas la racine de la méchanceté. C'est le mensonge de fond qu'on a cru qui doit être remis en question et abandonné. Cela nécessite généralement la correction. Nous devons arrêter de croire des mensonges au sujet de Dieu. Quand nous pensons qu'il est injuste, dur, et que ce n'est pas un Dieu bon pour qui travailler, nous embrassons des mensonges et nous ne pourrons pas faire confiance au grand roi sous l'autorité de qui nous travaillons. C'est encourageant de nous rappeler le caractère bon et raisonnable de Dieu. Dieu est bon. Il n'est pas déraisonnable. Il nous demande seulement de travailler avec tout ce qu'il nous a déjà donné. Faire de notre mieux avec joie est une chose raisonnable, puisque nous n'avons pas affaire à un maître dur ou injuste. Fondamentalement, Lotti la paresseuse est une personne qui ne veut pas travailler ou servir le Seigneur dans son domaine. Elle croit un mensonge et accuse Dieu d'être un Dieu méchant. Toutes sortes de mauvaises choses émanent de cette incrédulité. Excuses, rejet de la responsabilité, apitoiement sur soi et blasphème. Les Lotti paresseuses parlent mal de Dieu. Les gestionnaires passives rejettent le blâme sur Dieu pour leur irresponsabilité. En Apocalypse 3, on trouve une autre catégorie appartenant à notre image composite d'une Lotti paresseuse. C'est l'église de Laodicée. Au verset 15 et 16, le Seigneur dit de cette église « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Les Laodicéens sont satisfaits d'eux-mêmes, propres, justes et autosuffisants. En plus d'être mondaines, vaines, folles et blasphématoires, les gestionnaires passives sont tièdes. Une traduction libre du grec pourrait être « Vous me donnez envie de rendre ». N'allez pas trop vite pour conclure que Jézabel est bien pire que Lotti, la tiède. Dieu ne supporte pas les tièdes. Peut-être jugera-t-il Jézabel moins sévèrement que Lotti. Au moins, Jézabel n'était pas tiède.